Vous êtes toujours à l'écoute du réseau FM+, sur le 91 MHz, si vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes ou le 103.1 Radio Alliance Plus sur l'agglomération Nîmoise. Des mots pour le dire, toujours avec Michel Théron. Et aujourd'hui, nous abordons donc la croquer la pomme, c'est la thématique biblique, déjà ancrée dans un des premiers livres de la Bible. Et voilà, juste avant de prendre la parole, donc il y a eu cet espace musical que vous nous avez proposé, Michel.
Oui, alors il s'agit d'une séquence datant du Xe siècle, Alma Redemptoris Mater, c'est-à-dire mère nourricière du Rédempteur. Il est fait allusion, bien sûr, à Marie, hein, la Vierge qui a donné naissance au Messie par parthénogenèse, la naissance virginale de Jésus. Elle a été, cet enfantement, elle a été fécondée par l'opération du Saint-Esprit, comme nous disons, hein. Bon. Alors, cela me semble intéressant puisque dans l'imaginaire chrétien, on a disjoint la maternité et la sexualité, vous voyez, hein. Et effectivement, croquer la pomme est devenu chez nous synonyme de faire l'amour et on considère cette expression avec suspicion, si vous voulez, hein, puisqu'il y a une culpabilisation de la sexualité, d'où alors le mythe de la naissance virginale de Jésus pour justement conjurer cette hantise de faute, de culpabilité liée à l'union sexuelle, à la fécondation par les voies normales. Alors je pense que c'est beaucoup plus proche, si vous voulez, du catholicisme que du protestantisme, ça, hein, puisque on en est volontiers en protestantisme que Marie a pu avoir d'autres enfants. C'est ce que dit le texte de Luc, d'ailleurs. Elle enveloppa son enfant premier-né, ton prototokon, hein. Donc s'il était premier-né, c'est qu'il y en a eu d'autres, hein. Et puis après, il est question des frères et des sœurs de Jésus, où on a beau torturer le texte dans tous les sens, dire que ce sont des cousins, comme certains le disent, hein. Non, Adelphoi, c'est plutôt frères et sœurs. Alors, pourquoi justement a-t-on culpabilisé la sexualité? Eh bien, comment la connaissance du bien et du mal du texte original, rien de plus, hein, est-elle devenue en monde chrétien, ou au moins selon le catéchisme qu'on nous a enseigné, ce qu'on appelle le péché de chair? Alors, il est sûr que le mot « connaître » en hébreu a aussi une signification sexuelle, hein, puisqu'il est question de connaissance du bien et du mal. Connaître, quand on dit connaître au sens biblique, ça veut dire avoir des relations sexuelles avec quelqu'un, hein, vous voyez. Bon, donc, des Genèses, par exemple, chapitre 4, verset 1, on lit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn ». Donc, vous voyez, le mot « connaître » a ici le sens de faire l'amour, hein. Chouraki, d'ailleurs, traduit par le mot « pénétrer », qui a aussi les deux sens. Connaître abstraitement, par l'intelligence, et puis aussi pénétrer au sens physique, hein. D'ailleurs, on voit ce double sens dans l'expression « esprit pénétrant ». Quelqu'un qui a l'esprit pénétrant, c'est quelqu'un qui est justement intelligent. Donc, quand on lit chez Chouraki « Adam pénètre Ève, sa femme », etc., on voit bien l'ambiguïté. Alors, peut-être la polysémie du terme hébreu, « connaître » au sens intellectuel et « connaître » au sens physique, a-t-elle poussé, en monde chrétien au moins, à l'assimilation entre d'une part connaître le bien et le mal, et de l'autre avoir des relations sexuelles. Aussi, les premiers temps du christianisme ont connu l'ancratisme, c'est-à-dire l'hostilité à tout ce qui est charnel. Et je ne suis même pas sûr que ce christianisme soit entièrement débarrassé d'ancratisme aujourd'hui. Au moins, dans certains groupes, je dirais catholiques, plus ou moins intégristes. Alors, ancratisme vient de encrateia, qui veut dire en grec la continence, hein. Donc, se tenir à l'écart des relations physiques, si vous voulez, hein. Voilà. En tout cas, pour le grand public, là, tout le monde en sera d'accord, le fruit défendu a un sens sexuel, hein. On voit cela avec évidence dans un roman comme La Faute de l'abbé Mouret de Zola, où la faute en question, c'est pas du tout goûter le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme dans la Bible, mais la faute est évidemment de nature sexuelle, puisque le prêtre succombe aux charmes ensorcelants d'une femme, Albine, dans un jardin appelé de façon significative le paradou. Ça se passe en Provence, hein. Le paradou, c'est le paradis, donc tout est transparent ici. Pour Zola, à la fin du XIXe siècle, la faute n'est qu'une faute sexuelle, et croquer la pomme, c'est avoir des relations ici défendu, puisqu'il s'agit d'un prêtre. Et même un écrivain qui est peu suspect de reproduction d'un catéchisme, comme Marcel Proust évoque dans Un amour de Swann, les jeux érotiques de Swann et d'Odette. Il s'agit d'agencer des fleurs, les Cattleya, dans la gorge d'Odette, hein, faire Cattleya, comme dit Proust, et Proust rappelle le cas du premier homme qui goûta ce plaisir dans le paradis. Vous voyez, dont la sexualisation de la faute est évidente, ainsi que la répétition de, je dirais, son cliché. Alors, je viens de dire « Igouta dans le paradis » à propos de Proust. Mais à regarder de près le texte dans la version de la Vulgate et dans les traductions françaises qui reprennent cette version, l'union sexuelle entre nos premiers parents n'a pu se produire qu'après la chute, vous voyez. Alors, la chute est racontée au chapitre 3. Hein. Adam se découvre nu, hein, donc honteux, c'est le verset 10 du chapitre 3. Puis Ève, hein, alors ils sont interrogés tous les deux, et ils reportent leur responsabilité. Adam reporte sa responsabilité sur Ève, et Ève reporte sa responsabilité sur le serpent. Donc, ils sont ensuite punis par Dieu, à commencer par le serpent, dont c'est l'ordre inverse. Hein. Le serpent est condamné à ramper, c'est Genèse 3, versets 14 à 19, hein, et puis Ève est condamnée à enfanter dans la douleur, et puis Adam est condamné à travailler à la sueur de son front, travailler la terre à la sueur de son front. Alors là, je n'engage que moi, mais à mon avis, vous voyez, Redouane, la faute d'Adam et Ève, hein, c'est moins la désobéissance à Dieu que l'incapacité où ils se trouvent à reconnaître ce qu'ils ont fait comme leur appartenant en propre et l'incapacité à revendiquer la responsabilité. C'est une interprétation personnelle que je fais, mais c'est exactement la même chose qui se produit au chapitre suivant à propos du meurtre d'Abel par Caïn. Je crois que la faute de Caïn n'est pas d'avoir assassiné son frère, mais d'avoir éludé sa responsabilité. Quand Dieu lui demande « Où est ton frère Abel ?», Caïn dit « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?». Alors là, il est vraiment coupable, puisqu'il n'endosse pas la responsabilité de ce qu'il a fait. Sinon, il avait toutes les raisons de ne pas comprendre la préférence de Dieu pour le sacrifice d'Abel et le refus de Dieu pour son propre sacrifice. Vous voyez ? Bon. Alors, au début du chapitre 4, Adam et Ève s'unissent sexuellement, selon le verset que j'ai cité dans la version de Chouraki, Adam connut Ève, sa femme. Bon, je dis au début du chapitre 4, mais le problème, quelle est la traduction qu'il faut faire ici? Le grec de la Septante a un aoriste, Egnou, hein, Adam Egnou, Awam. Bon, il connut Ève. Alors, qu'est-ce que c'est que cet aoriste? Normalement, on le traduit par un passé simple. Donc, on dit Adam connut Ève. Hein. Mais on peut, alors là, il faut être bien connaisseur de la grammaire grecque, sur laquelle il ne faut pas plaquer la grammaire latine, hein, qui, elle, met un parfait ici, hein, c'est-à-dire un passé simple en français. L'aoriste en grec peut signifier un passé antérieur. Donc, on peut dire Adam avait connu. Donc, il avait connu dans le paradis, si vous voulez. Hein, avant, justement, la désobéissance et la faute. Mais le latin de la Vulgate, malheureusement, entre guillemets, a un parfait, cognovit, hein, qui ne peut équivaloir chez nous qu'à un passé simple. Alors, indubitablement, au moins dans la version latine, cognovit, cognoerat, il avait connu, hein, l'acte sexuel du chapitre 4, hein, suit chronologiquement la faute du chapitre 3. Et il est donc naturel que la faute étant génératrice de honte et de culpabilité, ils se sentent nus, hein, tout nus, hein, c'est-à-dire désarmés, il est naturel que cette faute déteigne sur l'acte sexuel. Le climat s'est considérablement obscurci avec l'expulsion du paradis à la fin du chapitre 3. Nos premiers parents sont chassés, hein, et puis il y a un chérubin, je crois, qui garde l'entrée du paradis avec une épée flamboyante, je crois. Hein, je parle sous votre contrôle, Redouane. Alors, tout ce qui suivra la première faute, c'est-à-dire la désobéissance au commandement de Dieu, dont l'exercice de la sexualité en subit les conséquences, vous voyez. Mais ça, c'est uniquement, nettement, à partir de la Bible dans la version de Jérôme, dans la version de la Vulgate. Hein. Par contre, pour la Bible juive, c'est tout différent. Le monde juif n'a pas du tout le pessimisme qu'ont eu les chrétiens et qu'ils continuent d'avoir, je le répète, parfois, quant au domaine de la sexualité. Ainsi, pour le verset 1 du chapitre 4 de la Genèse, on lit chez Rachi de Troyes, qui fut un grand commentateur médiéval de la Bible juive, qui était un juif, on lit « L'homme s'était uni ». Donc il faut comprendre, déjà avant le récit et plus haut, avant la faute et avant l'expulsion de l'homme du jardin. Donc Adam et Ève avaient déjà fait l'acte de chair, comme nous disons, avant dans le paradis, avant même la faute. Vous voyez, et il en est de même de la grossesse et de la naissance de Caïn. Alors voici ce que dit Rachi, je ne suis pas hébraïsant, je vais essayer de dire les mots hébreux quand même. Rachi nous dit, si le texte avait porté « Wayeda » au lieu de « Yada », cela aurait voulu dire qu'il a eu des enfants après avoir été chassé. Mais non, le texte porte « Yada ». Vous voyez, les hébraïsants, en tout cas, comprendront ici la différence. Je ne sais pas si vous pouvez m'éclairer, Redouane, vous avez l'air d'acquiescer. Et le commentaire de Rachi est normalement repris dans la Bible juive, dans la Bible de traduction française, la Bible du rabbinat français. Voici ce qu'on lit. Or, l'homme s'était uni à Ève, sa femme. C'est dans l'édition Colbo, éditeur Colbo, édition de 1994, page 5. Autrement dit, pour les juifs, l'acte de chair, l'acte sexuel, s'était déjà produit avant qu'Adam et Ève aient commis leur faute et aient été chassés du paradis. Et donc, l'acte sexuel n'a pas pu être marqué ou influencé en quelque façon de cette culpabilité qu'ils ont eue après avoir commis la faute. Alors, les temps en hébreu ont un régime très différent de ce qu'ils ont, par exemple, en latin, et dans cette traduction, l'homme s'était uni est tout à fait possible. Il est possible aussi qu'elle soit polémique, qu'elle soit dirigée contre la culpabilisation de 2000 ans de christianisme vis-à-vis de la sexualité. Chouraki, lui, il ne s'avance pas, il met toujours des présents, un présent éternitaire. Adam pénètre Ève, sa femme. Donc là, effectivement, ça peut être avant, ça peut être après, vous voyez, bon, tout est au présent chez Chouraki, vous voyez. Quoi qu'il en soit, l'exercice de la sexualité, surtout ayant pour but de la procréation, il est totalement valorisé en milieu juif. Et l'acte sexuel est même le seul acte qui soit non seulement permis, mais conseillé d'accomplir pendant la nuit du Shabbat. On ne peut pas faire les 613 mitzvot, mais on peut s'unir à sa femme et donc procréer. Et cet acte sexuel fait partie des mitzvot, des commandements, puisqu'on lit dans le verset 28 du chapitre 1 de la Genèse, à l'adresse des humains, c'est ce que Dieu leur dit, « Croissez et multipliez ». Donc jamais, pour un juif, la faute n'est sexuelle. Non seulement croquer la pomme n'a pas de sens, en vertu de l'homologie que j'ai dite entre les deux mots maloum, c'est simplement égaler Dieu, en quelque sorte, en goûtant au fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors pourquoi cette expression « croquer la pomme » je vous vois hocher la tête, Redouane. Pour un juif, ça n'a absolument aucun sens.